C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Donc, les conséquences. Ce matin, route glissante, rue glissante également. Et sérieusement, toutes les raisons sont bonnes, là, toutes les explications habituelles sont bonnes, mais c'est absolument aberrant de constater l'incompétence qui entoure les opérations de déneigement. C'est pas une surprise là, qu'on se retrouve avec de la neige ce matin. Puis là, on va me dire que les contrats sont terminés, puis qu'il aurait fallu faire des rappels. Pis... m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. Vous nous chargez assez cher de taxes. Êtes-vous capable de livrer un service minimal? Des rues qui ne sont même pas déblayées. Il n'y a personne, il n'y a pas d'équipement qui est passé durant la nuit. On le sait qu'il tombe de la neige puis qu'il va en tomber. On sait ça depuis les derniers jours. C'est une incapacité chronique maladive ou c'est de l'incompétence, ou c'est de « je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas livrer le service aux citoyens. » Et c'est pour ça qu'on se retrouve ce matin avec ce portrait. On ne demande pas de miracle, on demande juste une présence minimale quand on sait qu'il va neiger. C'est le premier constat qu'on peut faire ce matin. Le deuxième, la ville de Montréal, qui a une capacité de spin assez élevée, là, nous fait croire qu'ils sont en train de tout revoir la façon qu'ils vont gérer les opérations de déneigement. Je vais en parler avec l'opposition ce matin. Je suis pas certain qu'on est à la bonne place. Le ramassage de la neige, c'est une chose, mais de sécuriser les artères, les rues secondaires et les trottoirs, c'en est une autre. Et encore une fois, c'est de l'incompétence, parce qu'il y a des arrondissements où ça marche, puis il faut pas le dire, hein. Il ne faut surtout pas mentionner les endroits où ça fonctionne comme Anjou. Parce que là, tu te fais détester par la ville, ils ne sont pas contents. Puis arrêtez de donner des exemples où ça fonctionne. Ça nous met de la pression. Sérieux, là. Maintenant, pour ce qui est des centres de services scolaires, écoles aujourd'hui, alors il y a certains ajouts sur la liste dans les dernières heures, mais on a par exemple le centre des services scolaires des affluents qui est fermé, les Samar c'est fermé, Riverside partiellement, Wilfrid Laurier, des Hautes-Rivières, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est fermé aussi. Les Mille-Îles, c'est partiellement fermé. Dans le cas des Hautes-Rivières, il y a 3 écoles qui sont touchées. Alors, il faut absolument vérifier pour l'école de vos enfants. Et là, vous avez un paquet de collèges. Mille-Îles, c'est partiellement fermé. Le centre d'intégration scolaire, Esther Blondin, les Mélèzes, Lucien Guilbeault, Marianne, Peter Hall, le campus Ouimet, le campus Côte-Vertu, l'école Vanguard, tout ça est également fermé pour la journée. Parlons de la mort terrible de ce Beauceron, un ancien combattant, Jacob Flickinger, 33 ans, qui a été tué alors qu'il faisait partie avec d'autres humanitaires de ce convoi de la World Central Kitchen, qui est un organisme qui avait comme mandat, qui a toujours comme mandat, mais qui a mis un frein à ses opérations, de fournir de la bouffe aux Gazaouis qui sont coincés sur le territoire. Israël a reconnu que c'était une erreur. Beaucoup de gens ne croient pas que c'est une erreur parce que l'impact de ce qui est arrivé au-delà des décès, c'est de mettre un stop aux opérations humanitaires. Beaucoup de gens ont peur de reprendre les activités et il y a quelques détails qui émergent concernant ce qui s'est passé dans cet attentat menée par l'armée israélienne. D'abord, on comprend qu'on avait reçu des marchandises, qu'un bateau avait donc transporté les marchandises en question pour être capable d'aller porter de la nourriture donc aux gens qui littéralement crèvent de faim. Et ce bateau qui s'appelle le Jennifer est arrivé à Gaza lundi matin. Il y avait 332 tonnes d'aide alimentaire sur ce bateau. Et ça prend beaucoup de temps quand même pour décharger le bateau en question et commencer la distribution. Et à la fin de la journée, donc en soirée, il y a ce convoi avec des véhicules blindés, non blindés. Il y avait les deux types de véhicules. Et ils ont pris la route. Et ils ont été touchés par un tir de l'armée israélienne. Ils sont décédés. Et les décès ont été constatés sur place et confirmés tôt le matin. Alors, Israël s'excuse, dit que c'est une bévue, la communauté internationale, évidemment, condamne le geste. Et la grande question, c'est est-ce que c'était volontaire ou c'est vraiment un accident? Les deux sont possibles. Mais il y a une enquête qui est menée pour savoir comment se fait-il qu'on a tiré sur des véhicules qui étaient très bien identifiés. Et j'ajoute également que depuis le début de cette confrontation entre le Hamas et Israël, il y a 196 travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie. Ce sont les chiffres fournis par les Nations Unies. Et de ce nombre, on compte énormément de Palestiniens, des travailleurs palestiniens, donc recrutés par les Nations Unies. Et puis, entre-temps, les Américains continuent de soutenir Israël dans ce conflit. Mais le président Biden, qui doit parler aujourd'hui avec le premier ministre Netanyahou, a l'intention de mettre de la pression. Il y a beaucoup de frustration parce que ce conflit s'enlise. Ça fait 6 mois maintenant. Les otages sont toujours détenus, probablement décédés dans certains cas suite à ce bombardement massif. On sait qu'il y a un pourcentage plus qu'élevé des infrastructures qui sont détruites. C'est un cas de famine. Les hôpitaux sont également touchés. Alors, vous le voyez, c'est quand même lourd comme situation. Et on pense à cette famille en Beauce. Le jeune homme a fait l'Afghanistan, s'est retrouvé dans des missions humanitaires au Mexique, vit au Costa Rica depuis 2 ans avec sa femme et leur bébé. Et tout le monde, vous avez entendu des témoignages qui soulignent ses grandes qualités, un gars courageux, un gars généreux, un gars qui était prêt à tout faire pour aider. Il a eu la piqûre en joignant l'armée, des déplacements dans le monde, et il le faisait pour des fins humanitaires, pour simplement aider les gens à pouvoir avoir de la nourriture. Et Marc le mentionnait, puis c'est une très bonne idée, le télétravail aujourd'hui, quand c'est possible, c'est la meilleure option pour éviter de perdre du temps puis de venir sur des voies qui sont déjà très glissantes, déjà que le trafic est lourd, il y a des sorties de route, il y a des endroits qui sont fermés. Donc, ça demande un peu d'ouverture d'esprit des patrons. Là. Je donnais un cas tantôt de quelqu'un qui s'est fait dire « tu viens travailler » alors que ça fait 4 ans qu'il est en télétravail. Puis parce que des employeurs, puis ça c'est correct de décréter que c'est une journée ou deux par semaine de venir au bureau. Mais quand vous avez des conditions comme ce matin, c'est peut-être le moment parfait pour passer en mode télétravail. Et ça évite aux gens des déplacements inutiles dans le cadre de cette tempête de neige. Parce que les écoles ferment. Puis je rappelle aussi qu'il va neiger comme ça toute la journée. Donc c'est peut-être une option là, qui s'impose ce matin. Dans les autres nouvelles, on a appris hier en fin de journée la fermeture du complexe sportif du stade olympique, puis des bureaux également. On sait qu'il y a eu un incendie. Et, bon, les dommages sont limités, mais paraît-il qu'il y a beaucoup de traces de fumée, de suie, et que donc ça va forcer la fermeture des installations. Donc, je parle de piscine, je parle de gymnase, des bureaux également, et pour une période, dit-on, qui pourrait aller jusqu'à 6 mois. Ça m'étonne, pour tout vous dire, que ça prenne autant de temps puis qu'on ferme la piscine pour 6 mois parce qu'il y a un incendie qui peut avoir laissé des traces, mais en tout cas, on va essayer de se renseigner ce matin. Ça m'apparaît quand même assez long comme fermeture. Et puis, Aéroport Montréal-Trudeau va dévoiler ce midi un plan pour améliorer l'accès à l'aéroport. Rappelons-nous les cauchemars vécus, notamment l'été dernier, où ça prenait parfois plus de temps partir de Laval puis te rendre à l'aéroport Montréal-Trudeau que de prendre un vol puis te rendre à New York, par exemple, parce que c'était complètement bloqué et manque d'espace de stationnement, problème de fluidité reconnu par tous. Alors, c'est quoi le plan? La presse nous dit ce matin que ajout de stationnement, donc plus d'espace, de nouvelles portes d'embarquement, on va améliorer la capacité du débarcadère et c'est un plan qui va durer 4 ans puis qui devrait coûter 4 milliards, probablement plus, mais c'est ce qui est prévu. Nous sommes engagés dans une course en 2028, a dit le président Yves Beauchamp, puis il va faire son discours devant la Chambre de commerce, là. Je vous donne l'assurance que nous serons dans une autre réalité. Nous avons fait un progrès énorme. Ça presse, parce que on a un aéroport qui est pas très, très agréable. Je donnais des exemples de déplacements avec les fameux transbordeurs. C'est une autre technologie, c'est une autre génération. Ça n'a pas de bon sens. Puis des gens qui sont coincés là-dedans. C'est un peu particulier qu'on soit encore à recycler les vieux équipements de Mirabel. Puis en parlant d'avions, j'ai tous les jours, je dirais, des cas de passagers frustrés d'Air Canada. Et je ne parle pas du personnel, là, encore une fois, je vous parle de la façon dont Air Canada gère les vols. Un monsieur qui s'est fait annuler son vol 4 fois, reporté à chaque fois, c'est un vol direct pour Montréal, il est obligé de passer par Toronto. Son voyage, pardon, s'est allongé de plusieurs heures. Et t'as beau avoir ce qu'on appelle la fameuse charte des voyageurs, ça ne s'applique pas parce qu'Air Canada prétend que c'est toujours un problème technique. Dans les faits, Air Canada annule des vols souvent parce que le vol n'est pas plein. Puis c'est pour rentabiliser ses opérations. Air Canada se fout un peu de ta gueule quand tu voyages parce qu'il se dit, ben, si t'as un vol qui est prévu pour 1 heure, ben, tu partiras à 3 heures. Puis si à 3 heures, ben, c'est pas encore à notre goût, puis qu'on n'a pas rempli les avions comme on voulait, ben, tu partiras à 6 heures. Puis tu passeras par Toronto. Je veux dire, et ça, là, c'est pas un cas unique. C'est régulier. C'est comme une façon d'opérer pour Air Canada. Maintenant, je veux vous parler des poubelles. La presse nous apprend ce matin que des poubelles intelligentes achetées par des arrondissements au coût de 10 000 et de 15 000 $ vont être mises de côté parce que, paraît-il, ça ne vaut pas la peine. Alors, le premier arrondissement qui avait opté, c'est-à-dire l'arrondissement du Sud-Ouest, pour l'achat de 58 de ces poubelles intelligentes de la marque Big Belly. Après quelques années à jouer avec ces poubelles, on se rend compte que finalement, ça marche pas. Et que c'est pas vraiment, malgré le fait qu'on a testé ça, là, ben que ce ne sont pas des poubelles efficaces. Là, tu dis, parfait, okay, on fait une erreur, pas arrivé. On pensait que... Mais là, tu apprends qu'il y a d'autres arrondissements qui, malgré le fait que dans le Sud-Ouest, on a conclu que c'était pas bon, ont décidé d'en acheter quand même. C'est quand même assez spécial, entre vous et moi. C'est une autre caractéristique de la ville de Montréal de fonctionner comme ça, assez fermé. On vient d'en acheter dans Villeray, on a acheté dans Anjou, dans Hunsic Quartier-Ville, pour découvrir que ça marche pas. Puis entre-temps, le monde se plaint de plus en plus, dit le Journal de Montréal, des rues qui sont pleines de déchets de toutes sortes, hiver comme été. Alors là, vous avez une augmentation substantielle du nombre de plaintes, des signalements, par exemple, à l'été 2023, pour ce qui est du nettoyage public. Il y a une grande partie de la responsabilité qui incombe, évidemment, aux citoyens. Il y a des gens malpropres, il y a des gens qui n'ont aucun souci de l'environnement, il y a des gens qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi dans la rue, jeter n'importe quoi, puis c'est pas grave. Puis tu mets le sac à poubelle, tu le lances, il est éventré. Tu sais, il y a comme une négligence, une insouciance. Mais la conséquence, c'est que la ville est sale. Puis que les bords de route sont également sales. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu quand même ces opérations policières qui ont permis de trouver 598 véhicules volés, la plupart venant de l'Ontario, et c'était évidemment pour le port de Montréal, donc une opération policière dont on a fait le bilan au cours de la journée d'hier. Et je vais vous parler de l'éclipse, parce qu'il y a, je vous le dis tous les jours, j'ai des profs qui m'écrivent et qui me racontent un peu les nouvelles mesures qui vont être prises. Je dirais pas l'école, mais disons sur la rive sud de Montréal. Là, ils ont eu comme une mise à niveau hier. Voici le plan pour lundi. D'abord, les élèves devront porter en tout temps les lunettes. Les élèves devront se déplacer un derrière l'autre dans l'école tout en regardant le sol. On ne peut pas détourner le regard. Il y a des activités qui sont prévues au gymnase. Il y a des profs qui ont demandé, est-ce que c'est possible d'ouvrir la porte du gymnase? Il y a évidemment pas de fenêtre dans le gymnase, mais question de voir la noirceur. Ça a été refusé pour des raisons de sécurité. On a dit également que si vous restez dans vos classes, vous allez mettre du papier, vous allez baisser les stores, il faut boucher les fenêtres, il faut regarder des films. Et si jamais vous allez à l'extérieur, il faut avoir un plan présenté à la direction de l'école. Il faut que ce plan soit également présenté aux parents. Et si vous sortez, il va falloir également que il y a un autre adulte qui soit là pour superviser, pour être certain que les enfants fixent le sol et que les enfants n'enlèvent pas les lunettes. On est rendu là. Puis, c'est lundi l'éclipse. Il y a des écoles, ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on change l'approche. Là, tu te dis, c'est un peu ce que me dit la personne qui m'écrit, t'as l'impression que c'est la peste, que c'est une nouvelle pandémie, que c'est la santé publique qui est là avec sa liste de mesures spéciales, le port du masque, là, c'est le port des lunettes. On est en plein délire, là, au nom de l'ultra-sécurité. Il y a des mesures à prendre, on peut le faire de façon intelligente, mais on est-tu obligé de terroriser les gens comme ça? Puis en plus, dans cette école-là, ils n'ont pas de lunettes pour les plus petits. Ils ont des lunettes pour 7 ans en montant. Ça va être beau lundi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Un reportage de Radio-Canada nous apprenait que la Société des alcools du Québec a détruit des dizaines de milliers de bouteilles de vin, des bouteilles qui étaient encore bonnes pour la consommation, en raison des règles concernant l'entreposage à la Société d'État. Jacques Farcy est avec nous, c'est le président et chef de la direction de la SAQ. Monsieur Farcy, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcon, merci de me recevoir.
Est-ce que c'est vrai d'abord que vous détruisez des bouteilles qui sont encore bonnes?
Alors en fait, on est amené à disposer d'un nombre élevé de bouteilles, 136 000 à peu près, et parmi ces bouteilles, certaines sont encore propres à la consommation, mais l'écrasante majorité sont des bouteilles qui sont impropres à la consommation.
OK, mais prenons le cas de ces bouteilles qui sont bonnes à consommer. Oui, pourquoi vous les détruisez?
Alors en fait, ce sont des bouteilles qui sont arrivées, je dirais, à une durée de vie dans laquelle elles n'ont pas trouvé preneur. Ça concerne essentiellement les produits dits d'importation privée. Puis peut-être vous me donnez quelques instants très rapides pour préciser. En fait, l'importation privée, c'est un système qui fonctionne au Québec depuis un système historique, depuis toujours. On a des agents qui sont en fait des agents de représentation de ces produits-là. Donc ce sont des produits qui sont importés par la SAQ parce que la SAQ, c'est la seule société à être capable d'importer les produits. Donc on les achète, mais c'est pas parce que des produits que nous, on veut vendre dans nos succursales, c'est des produits qui vont être représentés par des agents. Et on a des règles, donc les agents, en fait, nous demandent d'importer ces produits, on les importe, et les agents font la mise en marché pendant un an. Donc les 5 premiers mois de la mise en marché, les produits sont stockés gratuitement dans nos entrepôts, et généralement, c'est dans cette période-là que les produits sont vendus.
Je comprends. Ouais. Vous avez une capacité limite de stocker des
tout
produits.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi? Que ces produits qui sont achetés par les importateurs, qui sont entreposés chez vous, après combien de temps vous les passez à la moulinette parce que ces bouteilles-là ne sont pas sorties de l'entrepôt?
Après un an.
Après un an.
Après un an. Et la raison pour laquelle on arrive à ces situations-là, c'est parce que on arrive à la constatation que ces bouteilles n'ont pas trouvé preneur pendant un an, malgré les efforts des agents, parce qu'ils sont très actifs pour les vendre. Donc, c'est des bouteilles qui n'ont pas trouvé preneur au bout d'un an, et donc, on est amené à les détruire. Bon, je dirais d'un point de vue théorique, on pourrait se dire, on les renvoie au destinataire, mais on comprend bien qu'on va pas renvoyer des bouteilles dans 70 pays partout sur la planète, ça fait pas de sens. Certains agents décident de les acheter, parce que parfois, c'est quelques bouteilles qui restent. Donc, pour libérer ce qu'on appelle les alvéoles, les emplacements de stockage, les agents rachètent quelques bouteilles. Parfois, quand c'est des quantités plus importantes, nous, on les saisit et on les détruit.
Je comprends absolument les règles d'entreposage. Mais il y a quelque chose de particulier de détruire ce qui est encore. Bon, il n'y a pas moyen de vendre ces bouteilles-là autrement. Une entreprise privée qui a un stock va dire « je vais faire un spécial cette semaine, puis ça va sortir de l'entrepôt ».
Alors, c'est sûr que je comprends ce que vous dites, de dire ces bouteilles pourraient éventuellement peut-être trouver preneur. On doit constater qu'après un an, malgré les efforts, elles n'ont pas trouvé preneur. Donc, il faut être clair sur le fait que ce n'est pas des bouteilles qui sont en très forte demande, parce que sinon, on les aurait déjà vendues beaucoup plus vite. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir autrement? possiblement. Mais je veux aussi ramener un point qui est important, parce que le reportage laissait penser qu'on on détruisait des produits en très grande quantité et des produits qui étaient propres à la consommation. Les quantités sont très limitées. Hein. Le chiffre de 136 000 a été cité l'année dernière. Sur ce chiffre, 136 000 bouteilles, sur ce chiffre-là, plus de 98 000 bouteilles étaient juste pour un partenaire qui n'était pas de l'importation privée, un partenaire qui a fait faillite, et ce stock-là était impropre à la consommation. Donc, les bouteilles qu'on détruit, elles sont vraiment très limitées.
Mais quand vous dites impropre à la consommation, ouais. Ça veut dire quoi, ça?
Bah, ça veut dire, c'est soit des bouteilles qui sont, enfin, des bouteilles, soit des contenants qui sont périmés, parce que bon, on vend des bouteilles, mais on vend aussi parfois des vins dans des poches, dans des bag-in-box ou dans des vignées, comme on les appelle ici. Donc, y a une date limite de consommation. Une fois la date limite passée, on peut plus vendre ces produits-là. Soit c'est des produits qui ne sont pas, je dirais, c'est des produits qui ont été tachés, des produits qui ont été détruits, dans lesquels il y a eu des destructions à côté, donc l'étiquette est plus lisible, donc évidemment c'est pas des produits qu'on peut commercialiser même à rabais, ou ça peut être des produits sur lesquels il y a eu détérioration du bouchon, du verre, enfin il y a énormément de situations dans la chaîne logistique.
Okay, mais combien de bonnes bouteilles vous avez détruites?
Alors, ce chiffre-là, malheureusement, il n'est pas comptabilisé dans nos systèmes de manière régulière.
C'est quand même bizarre, vous devez savoir, vous savez pas combien de bonnes bouteilles sont passées à la moulinette?
Non, on n'a pas ce chiffre-là de manière exacte, parce qu'il y a toujours une appréciation pour dire une bonne bouteille. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez une bouteille sur laquelle l'étiquette est à moitié tachée. Bon, est-ce que vous allez considérer que c'est une bouteille qui est une bonne bouteille à vendre? Possiblement. Donc, il y a toujours une appréciation humaine à un moment donné pour se dire, est-ce que je suis capable de revendre ce stock-là à rabais, ou est-ce que finalement, il y a rien qui est possible et donc je le détruis.
Mais c'est parce que, c'est juste pour conclure là-dessus, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on jette des bouteilles de vin qui pourraient être consommées. Est-ce que c'est pas une preuve que le système est un peu archaïque, un peu désuet, que les méthodes, les façons de faire sont malheureusement dépassé?
Je pense pas. Chaque commerce de détail arrive à un moment donné dans une situation où il se retrouve pris avec un stock qui n'a pas trouvé preneur, puis je le redis.
Et faites un spécial.
Oui, mais parfois, certains spéciaux ne suffisent pas à se débarrasser de ces stocks-là.
Mais ça, vous avez jamais essayé la méthode du spécial?
Non, il y a des bouteilles dont on se sépare dans certains canaux, chez dépôt, parfois, il y a des bouteilles qui sont vendues parce qu'elles ont été endommagées dans le circuit logistique. Bon, pas des bouteilles d'importation privée, là, vous avez raison, mais d'autres bouteilles, effectivement, dès qu'on peut les revendre, on les revend. Notre métier à nous, c'est de vendre du vin. Donc, évidemment, détruire une bouteille, c'est toujours un peu un constat d'échec.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des importateurs qui rachètent donc les bouteilles, vous l'avez dit tantôt, et qui les revendent au noir?
Alors, certains importateurs décident de racheter certains stocks. Ce qu'ils en font après, nous, la SAQ, on n'a pas connaissance de ce qu'ils en font. Donc, ça leur appartient.
Savez-vous s'il y a un marché noir au Québec du vin?
Je veux dire, on n'est pas naïf. Je pense qu'on a entendu, on se doute que ça peut exister. Mais ça n'est pas ni quelque chose qu'on cautionne, ni quelque chose qu'on encourage.
OK. Il y a eu, vous me corrigerez, une augmentation du nombre de joueurs qui font de l'importation privée dans les dernières années. C'est vrai?
Ça fluctue. Ça fluctue, effectivement, les agents d'importation privée, oui.
Alors, ces agents qui remplissent vos entrepôts, mm-hmm. Il y en a des petits et il y en a des plus gros.
Oui, il y a tout type d'agent.
Est-ce que c'est très facile de devenir un agent? Ça prend pas beaucoup de caution bancaire, ça prend quelques contacts, puis demain matin, je fais ça dans mon sous-sol.
Alors en fait, ça prend d'abord la volonté de le faire. Ça appartient à la personne qui va vouloir le faire. Et ensuite, il faut effectivement une caution bancaire, et petit à petit, les choses se construisent. Donc si les gens, si les acteurs sont sérieux dans leur démarche, petit à petit la caution bancaire augmente, petit à petit la capacité de stockage que nous on leur met à disposition augmente, et c'est comme ça que certains agents d'importation privée sont aujourd'hui des joueurs importants.
Ouais. Ceux qui récupèrent pas leurs bouteilles, ouais. Ce sont les petits ou les gros?
Alors, j'ai pas cette statistique en tête, je pense que les gens qui sont sérieux dans leur démarche veulent vendre les bouteilles, oui. La plupart du temps dans les 5 premiers mois, parce qu'ils ne payent pas de frais d'entreposage, et quand on regarde nos rotations de stock moyenne, on est à peu près dans les 5 mois pour l'importation privée. On est à peu près 2 fois plus rapide sur les bouteilles du réseau que nous, on gère dans nos succursales. Donc, l'écrasante majorité du système fonctionne très bien. Les agents comprennent bien la logique et sont capables de s'y conformer avec succès. Et la règle, le dernier point que je voudrais ajouter, Monsieur Arcand, parce que c'est important, toutes ces règles dont on discute et qui sont toutes évidemment transparentes et connues, sont des règles dont on discute avec les associations qui représentent les agents. C'est pas des décisions unilatérales de la SAQ toute seule dans son coin. On discute de ces règles-là.
Dans le reportage, on disait qu'il y avait du favoritisme, qu'il y avait des règles non écrites qui faisaient qu'un tel était favorisé et que l'autre ne l'était pas.
Ça n'est pas le cas.
J'ai pas de preuve de ça, là.
Non, mais je vous le dis. On se donne du mal à faire des règles, c'est pour qu'on les suive. Après, est-ce qu'il y a des cas d'exception de temps en temps? On n'est pas non plus esclave des règles en permanence, mais il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas la volonté de favoriser certains versus d'autres.
OK. Dernière question sur ça. Est-ce que, là, on parle des vins pour les restaurants principalement, mais vous, à la SAQ, est-ce que vous jetez des bouteilles qui sont bonnes?
Non.
Qui sont normalement vendus dans vos succursales?
Je vous le redis, ça peut arriver à un certain moment qu'on soit amené à détruire des bouteilles dans lesquelles le jus pourrait être bon, mais oui. La bouteille n'est pas commercialisable.
Okay.
Donc à un moment donné, on détruit la bouteille.
Bon, Monsieur Farcy, vous êtes à la tête de la SAQ.
Oui.
Les ventes sont en baisse. Québec a besoin d'argent. Vous avez une pression là assez claire pour rentrer du fric dans la machine, là.
En fait, ce qui se passe, c'est que le marché est relativement stable. On a publié nos résultats du troisième trimestre, vous les avez sans doute vus. Ils sont assez conformes à la tendance qu'on a eue depuis le début de l'année. Donc, effectivement, on doit s'assurer de poser les bons gestes, à la fois pour satisfaire les clients, tout en étant au bénéfice du Québec. Donc, c'est exactement ce qu'on fait depuis le début de l'année. On est très attentif à nos opérations, on est très attentif à notre gestion, de manière à s'assurer qu'on puisse livrer ce qui est attendu par le Québec.
OK. Vous avez un conflit de travail qui vous pend au bout du nez. J'ai vu votre figure dans plusieurs succursales avec votre rémunération.
D'habitude, les gens se souviennent plutôt de moi pour mon accent. Là, en ce moment, c'est plus mon visage.
Bon, il y a des mandats de grève qui ont été voter. Est-ce que, quand vous regardez là, le calendrier, là, il y a des périodes où vous dites ça se peut que les succursales soient fermées?
Alors, je voudrais revenir sur un point qui est important. On est en négociation, vous l'avez dit. La négociation se déroule, elle est très active. On est actif à la table. Le syndicat qui représente nos employés également. Donc, on est très satisfait de ça. Bien sûr, c'est une négociation. Donc, les choses se déroulent. Maintenant, est-ce qu'il est possible un jour qu'il y ait une grève? Ça appartient au syndicat, ça n'appartient pas à la SAQ. Mais ce que je retiens, c'est qu'on est très actif à la table et que les choses progressent.
Comment vous allez faire pour augmenter vos revenus?
Alors en fait, ce qui est attendu, c'est qu'on soit des très bons gestionnaires. Donc la dynamique du marché, on la connaît, vraisemblablement relativement stable. On continue, nous, dans cette dynamique stable, à s'assurer de répondre aux besoins des Québécois, mais pas stimuler artificiellement la demande. On n'est pas là pour demander à tous les Québécois de boire à outrance. Évidemment, c'est pas notre position. Une fois qu'on va suivre la dynamique de marché, d'un autre côté, nous, ce qu'on va faire, c'est bien gérer la SAQ, c'est-à-dire s'assurer que les investissements qui sont faits sont au bénéfice de la société, au bénéfice des clients, et rapportent dans notre dividende. Donc c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années. On a amélioré notre ratio de charge sur vente, qui est la mesure de notre performance. On l'a considérablement amélioré et on va continuer à le faire dans les années qui viennent.
Non, mais est-ce que ça peut passer par fermeture de certaines succursales? Est-ce que ça peut passer par des mises à pied à la SAQ? Est-ce qu'il y a des mesures comme ça qui s'en viennent?
Alors, en fait, on a annoncé au mois de janvier certains mouvements qui s'en venaient pour l'année. Donc, ces mouvements sont connus. Mais il n'est pas du tout question de se séparer massivement d'une partie de nos équipes. Nos équipes sont la source de notre solution. C'est mes collègues et qui vont trouver les solutions. Donc, il n'est pas du tout question de se séparer.
Augmenter le prix du vin et spiritueux.
Alors, on a annoncé effectivement des mouvements sur la majoration au mois de janvier. Ces mouvements vont être connus avec les négociations qui sont en cours. On communiquera au mois de mai, une fois que les négociations seront finies. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de changement drastique à attendre, mais est-ce que la SAQ va continuer à évoluer comme elle le fait depuis de nombreuses années? La réponse, c'est oui, évidemment, on doit s'adapter.
Mais ma question plus précise, comme le gouvernement vous passe une commande, parce que le gouvernement a des grands besoins financiers, allez-vous augmenter plus que normal, plus que d'habitude, le prix des produits vendus?
La réponse est non, on ne va pas l'augmenter de manière plus rapide. Le point qui a été fait au moment du budget, c'est un point qui concerne pas l'année qui vient, mais les années subséquentes. Et donc, de cette manière-là, je le redis, pour nous, ça n'est pas un changement de cap. C'est juste un encouragement à continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire satisfaire les clients et très bien gérer la SAQ.
J'entends des bruits, vous me direz, ça a du sens, que la SAQ est intéressée à mettre la main sur le système de vente pour les importations privées. Autrement dit, qu'au lieu de transiter par des agents, que ça transite par le site de la SAQ.
Non, alors, vous me donnez l'opportunité de préciser un point qui est très important. Les agents d'importation privée font un travail incroyable. Ils sont importants dans l'écosystème au Québec, donc il n'est pas du tout question de remplacer le travail des agents d'importation privée. En revanche, tout ce qui est la transaction, c'est-à-dire le fait de livrer finalement la bouteille au client lorsque l'agent d'importation privée a fait son travail, là-dessus, il y a des améliorations sur lesquelles on travaille, notamment le fait d'être capable de mettre à disposition ces produits sur la plateforme SAQ.com. On investit de manière massive dans un centre automatisé à Montréal qui nous permettrait de faire ça en 2027. Et le but ultime, ça n'est pas de remplacer les agents, c'est juste de faciliter le circuit logistique.
Prendre un peu plus d'argent au passage.
Non, pas du tout. Non. La facturation ou la manière de fonctionner est très conforme à ce qui se fait aujourd'hui. Juste éviter que la mise à disposition soit complexe.
J'ai une question à vous poser qui me vient d'un auditeur et c'est une question très précise.
Oui.
Sur le site SAQ.com, mm-hmm. quand on fait un achat, souvent pas disponible en ligne, mm-hmm. disponible à une succursale à Baie-Comeau.
Oui.
Là, il n'y a plus de transfert, je pense, qui est autorisé d'une succursale à l'autre, c'est vrai?
Ben, en fait, les transferts peuvent se faire, mais sous condition.
Mais c'est assez rare. Là, que...
C'est pas aussi répandu que ça l'était.
OK. Pourquoi c'est si compliqué, des fois, d'acheter en ligne?
Alors...
Parce que c'est marginal, puis c'est pas une grande préoccupation?
Non, c'est pas du tout compliqué d'acheter en ligne. C'est facile d'acheter en ligne.
Oui, mais c'est parce que le produit est pas disponible.
C'est ça. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir le produit au bon endroit. Donc, c'est la raison pour laquelle la SAQ, notamment sur les produits de spécialité, les relâchements, chaque semaine, il y a des relâchements tous les jeudis. L'intégralité des relâchements se font d'abord sur SAQ.com, de manière à s'assurer que, peu importe où est situé le client au Québec, il puisse commander son produit. Donc, j'invite tous les clients, le jeudi matin, à regarder sur SAQ.com tous les nouveaux arrivés. Parce que c'est là où ils vont pouvoir le saisir pour le faire livrer n'importe où au Québec, peu importe où ils habitent. Et ensuite, une fois que le nouvel arrivage est passé dans la semaine, si les stocks n'ont pas été complètement vendus sur SAQ.com, et c'est rarement le cas qu'ils soient tous vendus sur SAQ.com, alors on les distribue dans des succursales en fonction de ce que les succursales pensent être capables de vendre de ces produits.
C'est de voir que c'est parfois en ligne, pas disponible. Après ça, c'est dans une succursale.
Oui.
Une chance que vous êtes un monopole.
En fait, c'est le propre de tous les commerces de détail, c'est-à-dire avoir le stock au bon endroit au bon moment, c'est toujours une forme pas de cauchemar, mais ça tient les équipes très très éveillées et on s'améliore. Enfin, je veux dire, on est attentif à ces commentaires. Merci de me les partager. On les entend aussi directement des clients. On est attentif pour s'adapter. La manière de mettre en marché s'est beaucoup beaucoup adaptée à la SAQ depuis ces dernières années, donc on continue à s'adapter.
Merci d'être venu ce matin.
Merci.
Jacques Farcy est le président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On a appris une bien triste nouvelle hier, le décès de Jacob Flickinger, qui est un Canado-Américain originaire de la Beauce, militaire qui fait partie de ces travailleurs humanitaires qui se déplacent dans le monde pour aider les gens. Il faisait partie de cette cohorte de l'organisme World Central Kitchen qui se trouvait à bord de véhicules et ce sont les Israéliens qui ont ouvert le feu sur le véhicule en question. Malheureusement, 7 personnes sont décédées. Israël a reconnu que c'était une erreur, a reconnu les faits. C'est dur à croire qu'on puisse se tromper à ce point parce que les véhicules sont bien identifiés. J'en parle ce matin avec Jonathan Duguay, qui travaille aussi pour le World Central Kitchen et qui est un ami de Jacob Flickinger. Monsieur Duguay, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, toutes nos pensées pour sa famille, pour vous, sa femme, son enfant, c'est une tragédie terrible. Parlez-nous un peu de Jacob, si vous aviez à décrire aux auditeurs quel genre de bénévole, quel genre d'intervenant humanitaire il est.
Dans le fond, Jacob, c'était vraiment une personne super souriante. Quand il y avait des problèmes, il adorait pas les résoudre. Il était vraiment passionné avec le travail qu'on faisait. C'était vraiment un bon père de famille aussi. Là.
C'était quoi votre travail exactement? Puis c'était quoi son travail à lui?
Dans le fond, son travail, qu'est-ce qu'on faisait? On a commencé à Acapulco. On était sur le relief team. Alors, quand il y avait un désastre naturel, on allait porter de l'eau et de la nourriture fraîche dans les places parce qu'elles ont été touchées. Alors, moi, j'étais à Gaza. Moi, j'étais à Chypre. Puis lui, il était à Gaza. Puis moi, j'envoyais la nourriture par bateau, puis lui, il la recevait. Puis une fois qu'il la recevait, il allait la distribuer là, à Rafah.
OK. Et donc, lui, c'était comme pour escorter les convois, pour aider au transport de la nourriture?
Exactement. Là. Lui, il apportait la nourriture à Rafah. Du pire, parce qu'on a construit un jetty à Gaza.
Oui.
Walton Joe Kitchen, ils ont construit un jetty. Et puis lui, quand la barge arrivait au jetty, il a déloadé avec une crane, il mettait ça sur des flatbeds. Puis à partir de là, lui, il apportait la nourriture aux gens.
Qu'est-ce que vous savez sur les circonstances de sa mort? Est-ce que vous avez pu parler à des collègues qui étaient là? Est-ce que vous avez des détails sur ce qui s'est passé?
Pas vraiment. On va laisser l'enquête parler pour elle-même. Je sais que The World Central Kitchen, ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle enquête indépendante et non par le gouvernement. Alors, on va laisser les choses aller. Je veux pas spéculer. On entend plein de choses à droite, à gauche, puis c'est pas vraiment mon domaine, là.
OK. Vous, est-ce que vous continuez à vous impliquer?
Oui, certainement. Moi, je suis volontaire avec World Central Kitchen. Ça fait depuis septembre. Puis, on a une mission, puis notre mission, c'est vraiment de continuer à aller aider les gens, nourrir les gens, malgré cette tragédie-là. Mais il faut les nourrir, ces personnes-là qui sont dans le besoin.
Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi je fais ça? Bonne question. Je trouve qu'il y a beaucoup de evil en ce moment. Puis, je pense que la planète, la Terre est malade. Et puis, si on est capable d'aller aider une ou deux personnes de plus, puis à essayer de sauver des gens de la famine, c'est pour ça qu'on fait ça. Là.
Vous avez connu Jacob, avec vos missions des Forces armées canadiennes?
Exactement. On s'est rencontrés dans les forces. On a servi ensemble en Afghanistan.
Et si j'ai compris, il a un enfant, sa femme et l'enfant vivent au Costa Rica.
Oui, exactement.
Exactement. Puis vous avez, j'imagine, pu avoir un contact avec elle?
Exact. Quand j'ai appris la mort de Jacob, c'était à 3h le matin, le 2 avril. J'étais à Chypre et puis j'ai booké un billet d'avion à 7h30. Pour m'en venir à Montréal pour pouvoir après ça aller au Costa Rica pour aller prendre soin de sa famille. Là.
C'est terrible ce qui est arrivé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous puis bonne chance.
Merci beaucoup.
C'est au revoir. Jonathan Duguay qui travaille pour l'organisation World Central Kitchen et qui est un ami de Jacob Flickinger. Ce beauceron qui avait la double nationalité canado-américaine qui est mort et bon, il y a toutes sortes d'informations qui... nous arrive, je sais que les parents ne croient pas à la thèse de l'accident, d'erreur de tir. Il y a une enquête de l'armée israélienne, évidemment, mais il y a aussi l'organisme World Central Kitchen. Je rappelle qu'au total, depuis le début de ce conflit à Gaza, il y a 196 travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie. Beaucoup de Palestiniens qui font partie des ressources retenues par les Nations Unies. Et on se demande jusqu'à quel point il n'y a pas une volonté de faire peur à ces travailleurs et de retarder. Parce que là, World Central Kitchen a mis un frein aux opérations pour un certain temps. Il y a d'autres organismes qui sont en train de revoir un peu leur position. Mais je rappelle que ce sont des véhicules qui étaient clairement identifiés. Il y avait des véhicules blindés, des non-blindés. Et tout ça pour nourrir une population qui en a évidemment grand besoin. Très bien, on sait qu'il y a eu un incendie au Parc olympique le 21 mars dernier. Et là, on apprend que les installations, et là, je parle du gym, je parle de la piscine, je parle des locaux qui sont occupés par Desjardins. Bref, c'est une fermeture qui pourrait se rendre jusqu'à l'été. On parle de quoi? 4 mois et peut-être même 6 mois. Cédric Issimini est avec nous, il est porte-parole du Parc olympique. Monsieur Issimini, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Première question, l'incendie, là, est-ce qu'on connaît la cause ou est-ce qu'on sait ce qui est arrivé?
On sait que c'est d'origine humaine, mais on n'a pas encore l'information à savoir l'intention. Donc, est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est accidentel? Nous, on collabore avec le SPVM et le CIM là, depuis le 21, date de l'incendie, mais on n'a pas plus d'informations là, mais effectivement, c'est d'origine humaine.
OK. Et le feu a été allumé ou s'est allumé à quel endroit?
Il s'est allumé près d'un bassin miroir, juste à l'entrée des bureaux de Desjardins et de Sigma, les deux locataires qu'on a qui occupent la tour. L'été, c'est un endroit, c'est une terrasse qui est utilisée pour les employés de Desjardins. aux abords desquels il y a un bassin bassin miroir. Donc, c'est pas des fontaines là qui lèvent de terre, c'est vraiment juste des fontaines ornementales. L'hiver, bien entendu, c'est fermé et c'est là que le feu s'est déclaré. Le feu a été rapidement maîtrisé. Malheureusement, la fontaine est juste à côté des fenêtres de l'Institut national du sport. Donc, à cause de la chaleur, les fenêtres ont éclaté et la fumée s'est engouffrée dans l'INS, dans le centre sportif et dans le système d'aération. Donc, là, on se retrouve dans une situation où on a de la fumée qui est rentrée, qui contenait de la suie, qui est passée dans le système d'aération et qui s'est propagée dans les étages de la tour.
Okay.
C'est ça qui est le gros des dommages.
Bon, beaucoup d'auditeurs qui ont appris ça hier soir, là, notamment la fermeture de la piscine, la fermeture du gym, se disent, mais comment un incendie mineur peut entraîner la fermeture d'un complexe pour 6 mois?
Oui, ben c'est vraiment le système d'aération qui a été touché par la fumée. Certains auditeurs vont se rappeler en 2018 qu'il y a eu un incendie qui s'est déclaré également dans le centre-ville, dans une tour à bureaux. Qui a commencé sur le toit et le même scénario s'est reproduit. C'est-à-dire que quand la fumée rentre dans le système d'aération, la suie est propagée à tous les étages et c'est la décontamination qui est le gros des dommages et le gros des travaux. C'est-à-dire que là, il faut décontaminer tous les étages touchés et certains étages, ceux qui sont plus proches du foyer, sont plus touchés que d'autres, mais c'est sûr que c'est vraiment ce volet-là qui est le plus important. Il y a eu également des dommages causés par l'eau lorsque les pompiers ont éteint l'incendie. Mais c'est vraiment la suie qui est allée. Vous savez, le centre sportif, c'est très vaste. Hein? C'est sous la tour. Et là, il faut tout nettoyer. Il faut nettoyer les estrades. On parle de 2500 places. En tout, c'est une superficie de 66 000 m².
Il y a combien de personnes qui participent aux opérations de nettoyage et de décontamination?
Au plus fort, on va être à environ 300-350 personnes. Présentement, il y a 275 personnes au moment où on se parle qui sont dans les locaux en train de décontaminer. Ils ont des équipements de protection, des masques, des lunettes. Ils sont en train de tout décontaminer, nettoyer et également recenser. Parce qu'on n'a pas terminé de recenser exactement jusque où la suie s'est rendue.
OK. Au plus tôt, à quel moment vous pensez que les sportifs auront à nouveau accès à la piscine, au gym, par exemple?
Pour le moment, on n'a pas encore cette information-là. On essaie de voir. C'est sûr qu'on regarde pour ouvrir par phasage. C'est sûr que les étages plus en hauteur ont été moins touchés par la suie. Mais le centre sportif et l'INS, qui est à côté du foyer, lui a été plus touché par la suite. C'est sûr que c'est pas l'idéal, là, on le comprend. Là. C'est les athlètes de l'INS, c'est nos 4000 membres du centre sportif, c'est les 1500 de la tour. On va avoir un scénario là, dans les prochaines semaines, on va pouvoir dire, OK, voici comment on peut faire, voici comment on peut procéder. Mais pour le moment, on est encore en train de travailler sur celui-ci.
Est-ce que ça a un impact sur des équipes qui s'entraînent, qui se préparent pour les Jeux olympiques?
Oui, ça a un impact avec eux. Donc, l'INS est fermé. Donc, l'INS abritait là, une dizaine de disciplines olympiques qui s'entraînaient. On travaille avec eux. On vient de les relocaliser. On vient de relocaliser la clinique médicale ailleurs dans nos bureaux près du métro P9. On est en train également de regarder d'autres scénarios. Ça a également un impact sur des événements qu'on avait au centre sportif qui étaient prévus. Non, c'est vraiment pas l'idéal, là, M. Arcan, ce qui se passe. Là, il y a personne qui voulait ça. Puis qui
non, je comprends, je comprends. Donc, c'est un minimum 4 mois là, de fermeture. On est au mois d'avril, donc ça peut pas... Pas avant l'été, en tout cas.
Non. Pas avant l'été. On espère, si on arrive à avoir un scénario plus clair, tant mieux, on va pouvoir réouvrir plus tôt. Mais présentement, on est dans un éventail, là, un horaire de 4 à 6 mois de fermeture.
OK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir, Cédric Essimini, qui est le porte-parole du Parc olympique. Bon, nous sommes avec cette bordée de neige imposante printanière ce matin. Et on a vu, en tout cas pour les gens qui se sont levés tôt, que les rues de Montréal étaient pas très bien dégagées, les rues en pente étaient glissantes. Et là, je comprends qu'on est à cheval sur deux saisons et la ville nous disait cette semaine, ben là, on a déjà des équipements qui sont prévus pour faire le nettoyage parce que la ville est sale également. Et ce matin, l'opposition à l'Hôtel de Ville va faire une conférence de presse pour annoncer ce qu'ils anticipent comme étant une baisse de service à venir pour les Montréalais, les Montréalaises. Le chef de l'opposition est avec nous, Aref Salem. Monsieur Salem, bonjour.
Bonjour, Monsieur Alcan.
Comment Montréal peut faire pire en déneigement, si je me fie à vos propos, là, comme quoi ils vont réduire la qualité du service?
Mais en fait, en allant dans la réforme qu'ils sont en train de proposer actuellement.
Quelle est la réforme?
Ben, la réforme aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ils vont diminuer le service en augmentant les distances de ramassage de neige. Là, on parle, actuellement, nous avons des équipes qui interviennent sur 30 km de ramassage de neige. Ils vont augmenter cela à 40 km. Ça veut dire qu'au lieu de ramasser la neige en 3,1 jours aujourd'hui, ils vont les ramasser en 4,3 jours éventuellement. Ça, c'est une diminution de service de 28%.
Mais pourquoi est-ce qu'on déciderait de faire ça?
Parce que la ville, vous savez, aujourd'hui, avec la neige qu'on a actuellement, on a déjà de la misère à ramasser la neige comme du monde. Alors, au lieu d'augmenter, on vient d'imposer une taxe de 4,9% aux citoyens de Montréal, au lieu d'augmenter le service, on est en train de diminuer le service. Cette diminution de service, il y a trois points. De un, l'imputabilité au niveau des élus. Ils vont chevaucher des secteurs, des d'autres d'arrondissements. Mettons, moi je suis à Saint-Laurent, des gens de Cartierville peuvent venir nettoyer un secteur de Saint-Laurent. Les gens ont voté pour moi. Moi, je ne pourrais plus intervenir pour déneiger leur rue. Je ne pourrais plus leur donner leur juste s'il y a un service mal rendu. Ça va être aux élus de l'autre côté de la frontière de répondre à mes élus, à mes électeurs, à moi. Donc, il y a un problème d'imputabilité au niveau des élus qui sont déjà sur place. La deuxième chose, c'est au niveau de ces temps. Comme je vous ai dit, ça va nous prendre plus de temps pour nettoyer des rues. Au lieu d'avoir 3,1 jours aujourd'hui, on vise 4,3 jours. Donc, c'est une journée de plus qui va pénaliser les gens qui habitent dans les petites rues de Montréal.
Okay, mais il y a des gens qui sont capables de le faire en 3 jours. Il y a des gens qui sont capables, je parle dans les arrondissements. C'est très variable, la qualité des opérations de déneigement.
Ben, c'est variable, mais on est en train de réussir à le faire en 3,1 jours. Vous savez, nous, comme payeurs de taxes, nous payons nos taxes, puis nous payons une augmentation de taxes de 10% à peu près en 2 ans.
Mais ce que vous me décrivez, là, ça ressemble à du nivellement par le bas.
Absolument, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de dire. Ce nivellement vers le bas, ça va prendre plus de temps pour ramasser la neige au niveau de la ville au complet. Oui, il y a des gens qui le font en moins que 3,1 jours. Il y a des gens qui le font en plus que 3,1 jours. Mais en moyenne, on réussit à ramasser la neige en 3,1 jours. Là, aujourd'hui, ils veulent qu'on ramasse la neige en moyenne en 4,3 jours.
À la Ville de Montréal, ce qu'on nous dit, là, c'est qu'on est en train de refaire ça pour être sûr que les grandes artères vont être mieux dégagées, que la Ville-Centre va prendre ses responsabilités, que les zones, par exemple, pour le transport adapté, vont être nettoyées plus vite.
Monsieur Arcan, ils font ça pour sauver de l'argent. Parce que là, ils sont en train de tourner en rond. On augmente les taxes à n'en plus finir. Les services sont en train de baisser et c'est une diminution flagrante de services. Les arrondissements, on avait le choix d'avoir 2 ramassages de neige qu'on pouvait décréter nous-mêmes. Parce qu'on sait déjà à la ville de Montréal, sur les territoires de la ville de Montréal, on n'a pas la même quantité de neige qui tombe dans tous les arrondissements pareils. Donc, on avait le choix de venir, mettons à Saint-Laurent, de venir décréter un chargement de neige qui est payé par la ville-centre. Ils nous ont donné cette autorisation parce qu'ils savent déjà que c'est pas homogène partout. On n'a jamais abusé de ça. Les arrondissements n'ont jamais abusé de ça. Ils viennent nous reprendre.
Mais là, ce que vous me décrivez, M. Salem, là, c'est comme une chicane entre la ville-centre et les arrondissements pour savoir, je ramasse la neige, je la ramasse pas, je veux faire l'opération. Moi, je me mets à la place du citoyen qui écoute ce matin, mais c'est bien compliqué d'éneiger une ville comme Montréal.
Monsieur Arcan, nous sommes en train de dénoncer une diminution de service. Ce qu'on est en train de dire aux citoyens, nous, comme ensemble Montréal, on n'accepterait jamais cette diminution de service. Oui, il y a déjà une chicane au niveau du pouvoir entre la ville-centre et la ville et les arrondissements. Ça, on est conscient de ça. C'est la gouvernance de la ville de Montréal. Nous avons un service aujourd'hui qu'on est en train de donner aux citoyens, un service quand même de 3,1 jours de ramasser la neige. On est en train de niveler vers le bas, effectivement, ce service-là.
Et
c'est ça qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui.
Ça, je suis bien d'accord avec vous. Là, je comprends tout ça, là, que vous mettez ça en lumière. Mais quand je parle à la ville, on m'explique que c'est la faute des arrondissements quand c'est variable. Quand je parle aux gens d'arrondissement comme vous, ils me disent non, c'est la faute de la ville-centre qui fait pas sa job et qui coupe dans les budgets. Moi, je me dis, mais OK, c'est jamais la faute de personne, finalement.
Monsieur Arcan, on a centralisé le déneigement au niveau de la ville-centre. quand on décrète un chargement de neige, c'est la ville-centre qui décide quand est-ce qu'on sort pour ramasser la neige. Oui, les cols bleus sont dans les arrondissements.
Mais qui a décidé, exemple aujourd'hui, oui. là, qu'il n'y avait pas de tempête de neige, que personne ne parlait de ça, que les prévisions météo ne faisaient pas allusion à ça, là, puis qui a décidé finalement, à la dernière minute, que, oups, on dirait qu'il neige. Qui est responsable? L'arrondissement, la ville?
Non, c'est la ville-centre.
C'est la
ville-centre qui est responsable. C'est la ville-centre, justement, c'est ça qu'on est en train de dénoncer. On est en train de dire la ville-centre, elle a pris cette décision, puis c'est la ville-centre qui est en train de diminuer le service des gens, même si on est en train d'augmenter les taxes.
Est-ce que vous croyez ça, vous, que parce qu'on est à cheval sur une saison, puis que là, on a commencé le nettoyage, puis qu'on n'a pas les équipements disponibles, puis que les contrats se terminent à la fin du mois de mars, que c'est aussi merdique que ça aujourd'hui?
Monsieur Arcan, depuis que je suis jeune, je sais qu'il y a une tempête qui arrive à la fin de mars, début avril. Il n'y a pas une année, retournez dans les records, il n'y a pas une année où on n'a pas une tempête à la fin de mars, début avril. Je comprends qu'on ne veut pas ramasser la neige aujourd'hui, mais on peut la déblayer.
Ah oui,
et on peut garder au moins nos équipements prêts pour déblayer la neige, parce qu'on sait depuis que je suis dans ce pays, on a tous les ans une tempête qui arrive fin mars, début avril.
Merci d'être venu ce matin, M. Salem.
C'est un plaisir.
Aref Salem est le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Imaginez, vous avez votre téléphone cellulaire entre les mains, puis vous recevez des textos. Puis là, vous regardez ça, puis vous comprenez pas trop. Tu te dis, mais ça s'adresse pas à moi. Comment ça se fait que je reçois ça? Évidemment, ça peut être un cas d'arnaque, on le sait. Il y a tellement de messages qui entrent de tous les bords, tous les côtés. Mais le cas que je vous présente ce matin, c'est celui de Vicky Fife qui s'est retrouvée avec des messages sur son téléphone cellulaire, mais des messages qui étaient pas pour elle. Et visiblement, ils étaient deux à avoir le même numéro de téléphone. Vicky Vive, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Racontez-nous un peu votre histoire. D'abord, disons que vous êtes cliente chez Bell.
Oui, dans le fond, j'étais chez TELUS. Il y a 4 mois, on a fait le changement pour aller chez Bell. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. On était bien contents. On sauvait de l'argent.
OK. Puis là, pour que ça soit bien clair, le numéro que vous aviez vous a suivi.
Oui, puis je l'ai depuis... au moins 12 ans, ce numéro-là.
OK. Qu'est-ce qui est arrivé après?
Dans ton mardi matin, je me mets à recevoir des téléphones, un téléphone et des textos qui sont adressés à une personne qui n'est pas moi. Donc, en toute gentillesse, je réponds aux gens en disant vous vous trompez de personne, il y a erreur sur la personne. Et il y a une personne assez gentille de l'autre côté qui a dit écoute, je comprends pas parce que je réponds à un de tes textos que toi-même tu m'as envoyé. Fait que là, on a trouvé ça tous les deux étrange. Il m'a envoyé une capture d'écran et effectivement, on voyait que la personne qui avait le même numéro que moi avait texté cette personne-là. Cette personne-là me répondait, mais je recevais, moi, les textos destinés à l'autre personne.
Quel genre de textos vous receviez?
C'était un gestionnaire d'immeuble qui mentionnait à la personne que ses clés allaient être déposées à un endroit XYZ. Puis ensuite de ça, j'ai reçu un texto qui disait « 15 avril, avez-vous confirmé le bain au CLSC? »
Le bain au CLSC?
Oui, c'était probablement pour la personne qui recevait des soins du CLSC.
Mais là, une fois que vous faites le constat que vous recevez des appels, messages qui sont pas pour vous, j'imagine que vous contactez votre fournisseur?
On a contacté le fournisseur plus tard en soirée. Un des premiers réflexes qu'on a eu, c'est de prendre un des téléphones qui m'a été... j'ai reçu un appel et on a rappelé cette personne-là en disant « Écoutez, je pense que vous êtes probablement lié de famille avec la personne à qui les textos sont destinés. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vraiment le cas? » Puis finalement, on parlait au papa de la personne qui avait reçu les textos. Et de fil en aiguille, on a appris que son fils avait fait affaire avec Lucky Mobile, qui est une compagnie téléphonique qui envoie, dans le fond, des cartes SIM aux gens. Puis après ça, ils peuvent sélectionner les numéros de téléphone associés à la carte SIM. Et le jeune homme en question, quand il a décidé de prendre le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, à moi, était dans la liste des numéros de téléphone disponibles.
Bon, les fournisseurs à qui on parle nous disent que c'est impossible qu'un numéro qui est utilisé, qui a été accordé à quelqu'un, puisse être octroyé pour un autre téléphone.
C'est le même discours qu'ils ont eu avec nous là, le mardi soir.
Puis vous, ça fait 12 ans que vous avez ce numéro-là. Puis là, soudainement, parce que quelqu'un a une puce de chez Lucky Mobile, il se retrouve avec le même numéro que vous.
Tout à fait.
Puis là, on fait quoi après ça?
Ben là, dans le fond, au niveau de notre compagnie, Abel, ils nous ont dit que c'était impossible à maintes reprises. Et les seules solutions qu'ils nous offrent, c'est de soit changer de numéro de téléphone avec tous les désagréments que cela va entraîner, parce que notre numéro de téléphone est dans plusieurs dossiers et autres.
Mais non, mais vous l'avez depuis 12 ans, votre numéro.
Je sais. Et sinon, l'autre solution qu'ils nous offrent, c'est de faire une plainte tout simplement au Centre canadien des fraudes. Alors, pour moi, c'est un peu aberrant parce que ces compagnies-là ont, selon moi, une obligation de résultat. Puis dans ce cas-ci, le résultat, c'est de faire en sorte qu'un client qui se prévaloit d'un contrat qui est valide, ben, puisse posséder son numéro de téléphone qui lui est propre à lui-même. Là.
Mais Mme Fife, moi, là, je sais pas, là, mais il me semble que vous achetez un service d'un fournisseur et il y a un problème, clairement, là, parce que tu peux pas avoir deux numéros de téléphone, enfin un numéro de téléphone pour deux appareils, ça n'a pas d'allure. C'est à votre fournisseur de régler ça.
Oui, ben ce qu'on a fait, on a décidé de déposer une plainte au CRTC. On est toujours en attente de nouvelles de ça.
Boy. OK, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben ça me fait plaisir, bonne journée.
Bonne chance à vous. Alors, Vicky Fife, qui est une cliente de Bell. Sérieusement, c'est déjà arrivé dans le passé. On a regardé ça, là, puis il y a eu des cas. Mais ça, c'est le parfait exemple d'un système à la clientèle qui ne s'occupe pas du monde. T'es parti de chez TELUS, tu t'en vas chez Bell. Il y a un monsieur qui est parti d'une banque, qui est allé à la Banque Royale, il m'a écrit. Puis ça, c'est une belle nouvelle parce qu'il a dit que c'était impeccable. Tous ses comptes, tous ses prêts, toute sa paperasse a bien voyagé, ça atterrit correctement, puis il dit, je vous l'envoie parce qu'au moins, ça fait une bonne nouvelle. Mais là, Bell comprend qu'il coupe, là. Mais il me semble que le minimum que tu peux faire, c'est de dire, madame, on va d'abord trouver l'erreur, puis on va corriger l'erreur. Puis vous n'aurez pas à perdre votre numéro que vous avez depuis 12 ans, parce que quelqu'un l'a depuis une journée. Puis là, on dit quoi? Tu vas appeler au centre antifraude? J'ai déjà appelé là. Bonne chance. Bonne chance. Il n'y a personne qui répond. Et après ça, on dit, ben, fais une plainte au CRTC. C'est comme les chartes à Justin, les chartes des voyageurs. T'es rendu le dossier 64 700. D'après toi, à quel moment on va s'occuper de ton dossier puis que tu vas avoir une compensation? Donc, il me semble que Bell, grosse compagnie, devrait avoir le courage de dire, Madame Fife, on va vous régler ça. C'est pas à elle à tout changer ses numéros partout puis recommencer. On va faire un petit suivi quand même pour botter le derrière de Bell parce que, tu sais, ça arrive tellement pas souvent qu'il me semble que dans un cas comme ça, il devrait être en mesure de corriger le tir.
C'est 23.